No, not you. Quiet, quiet. You are fake news.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir, c'est le nouveau rendez-vous soirée énervée qui fait coup double tous les soirs. On ouvre à 18h en avant-première en podcast avant le passage antenne 22h minuit. Bienvenue à toutes et à tous, programmation semaine de vacances. Nous sommes le 25 décembre et le Père Noël n'existe pas, sauf peut-être pour Donald Trump et consorts qui parleraient de vérité alternative. Bref, le 25 décembre, c'est le jour parfait pour revenir sur ce qui a alimenté la vie politique cette année, les fake news, arme stratégique des populistes. Et en septembre dernier, on avait consacré deux émissions à ce double phénomène, avec notamment un gros plan sur une personnalité qui fait le lien, Steve Bannon, un théoricien d'extrême droite de la fake news qui murmure à l'oreille des autorités américaines et qui manipule les extrémistes européens. Et en live, Marion, ce soir ?
Eh bien, c'est une vraie bonne nouvelle pour le coup. C'est le retour de Temples. Temples, c'est ce groupe anglais qui ressuscite le psychédélisme et on a rebranché les guitares pour le coup.
Et puis en deuxième partie, autre temps, autre parole, ce sera le NRV la suite. France Inter Plus, le NRV, c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et on ouvre tout de suite avec le grand retour de Junior, re avec un E, et de sa pop nerveuse, féminine et stylée, extrait de leur nouvel album 1, 2, 3, attendu pour le 26 février prochain, à ben d'accord.
I'm gonna go.
Ah bah d'accord, signé Junior qui vous le dit tout net, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Alors dans un monde inondé de fake news qui hystérise la vie politique et dénature les campagnes présidentielles, c'est le sujet de ce soir. Fake news et complotisme, on en parlait le 18 septembre dernier avec en ligne de mire les Gilets jaunes, Donald Trump, Bolsonaro, les élections européennes, sans oublier un maître du genre, Steve Bannon. Quand les fake news gouvernent le monde, post-vérité ou désinformation, voilà la nouvelle arme politique, on en parlait avec nos invités. Rudi Rechtstadt, fondateur et directeur du site Conspiracy Watch, auteur de L'Opium des imbéciles, la critique du complotisme est un sport de combat aux éditions Grasset. Il y avait aussi Emmanuel Ostian, il est journaliste, reporter de guerre, auteur de Désinformation, enquête sur les fake news qui gouvernent le monde aux éditions Plomb. Kevin Limonier nous avait rejoint, il est géopolitologue, spécialiste du cyberespace et notamment de l'internet russophone. Et puis on entendra aussi un entretien avec Alison Kleman, c'est la réalisatrice du film Steve Bannon, le grand manipulateur. Mais tout de suite, Christophe Bourseiller, c'est notre grand manipulateur à nous, pour l'éditorial.
Alors écoutez, Laurent, je suis très étonné que vous participiez ce soir à une émission sur les complots. Laurent, vous qui distillez les rumeurs, vous qui n'êtes qu'un laquais au service du nouvel ordre mondial, à moins, Laurent, que vous ne soyez naïf. Vous pensez sérieusement, Laurent, qu'Emmanuel Macron est venu au pouvoir par des élections libres? Vous croyez vraiment que le réchauffement climatique est d'origine humaine, alors qu'il s'agit à l'évidence d'une opération extraterrestre, les aliens adaptant notre planète à leur métabolisme? Prenez le bombardement récent de puits de pétrole en Arabie Saoudite. À l'évidence, les Saoudiens se sont bombardés eux-mêmes pour plonger les bourses dans le chaos et faire monter le prix du pétrole. Et les réunions du G7, Laurent, un conclave de guignols, de mauvais acteurs qui gesticulent, tandis que les vrais maîtres du monde, eux, tirent tranquille les ficelles. Alors vous l'aurez saisi, Laurent, le complotisme auquel je viens de m'adonner est un jeu assez drôle et c'est un jeu à la mode. Il est d'autant plus efficace que les fake news, eh bien, elles proviennent bien souvent de sources organisées, voire d'États qui distillent les demi-mensonges et les demi-vérités pour nous plonger dans la confusion et y réussissent très bien. C'est vrai, Laurent, il y a de vrais complots. Raison de plus pour éviter de sombrer dans les théories du complot qui relèvent de la paranoïa collective. Emmanuel Ostian, on va commencer par un sujet récent et français. Les gilets jaunes, selon vous, c'était une révolution de couleurs téléguidée par une puissance étrangère, oui ou non?
Téléguidée, sûrement pas, mais à la fin, largement accompagnée, comme la dite puissance étrangère aime le faire. Enfin, d'ailleurs, la dite puissance étrangère, on pourrait la mettre au pluriel, hein, parce que il n'y a pas que les Russes pour les citer qui ont un intérêt à souffler sur certaines braises. Et ce qui est sûr, mais mes camarades le savent mieux que moi, sans doute, c'est que ils partent à chaque fois d'un mouvement qui est réel. On ne peut pas contester qu'il y a eu une forme d'éruption au début. Totalement invisible, d'ailleurs, pour d'autres raisons, de la part de ce que l'on appelle les élites, hein, qui n'ont absolument rien vu venir. Et ensuite, il s'agit maintenant, et c'est toute la finesse de la chose, d'accompagner ce genre de mouvement, en quelque sorte, de le faire grossir, de le maintenir, de nourrir des personnages, d'en exclure certains, de créer des clivages, une polarisation. Hein, c'est vraiment ce qui est très important. Et ça a merveilleusement fonctionné en l'espèce, là, les gilets jaunes.
Vous dites les gilets jaunes s'expliquent par un changement d'algorithme sur Facebook,
Page. Alors ça, voilà. Quand vous dites de page,
ça veut dire quoi? C'est très simple. Même si c'est très compliqué à la fin. En 2016, on a accusé Facebook d'avoir fait le jeu de la désinformation. J'allais dire brute de pomme, brute de fonderie, avec des fausses pages qui étaient propagées, et ça a provoqué, selon certains, une accélération de l'élection de Trump, le Brexit, etc. Donc Facebook a quand même fait amende honorable, a tenté de se réformer, et au lieu de mettre en avant ses pages, il a préféré mettre en avant les communautés, la tribu, en quelque sorte revenir aux vrais gens, etc. Le problème, c'est que ça a fabriqué un autre phénomène, qui est que les gens se nourrissent de moins en moins d'informations qui viennent de l'extérieur et qui pouvaient varier en quelque sorte leurs informations, et se nourrissent de plus en plus d'informations qu'ils échangent entre eux. Et on se rend compte que les groupes Facebook du départ, qui pouvaient comporter des dizaines, voire dans certains cas des centaines de milliers de personnes, se nourrissaient d'informations qui étaient en effet totalement fausses, mais qui étaient répandues à la vitesse de l'éclair, puisqu'on sait que les informations fausses sont 6 fois plus virales que les informations justes. Mais ça, on connaît le principe.
Alors pour revenir non pas sur les gilets jaunes, parce que la Russie a un rapport avec les gilets jaunes, mais aussi avec l'élection de Trump, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette élection, justement, sur ce qui s'est passé sur Facebook, avec un homme dont on apprend l'existence, et c'est vrai que c'est la première fois que j'en entendais parler, c'est Robert Mercer. Qui est ce Robert Mercer ? Emmanuel Ostian.
Oui, on pourrait en parler des heures, parce que c'est un des milliardaires qui ont soutenu Trump et qui ont déversé des flots d'argent, littéralement, et qui ont modifié sa campagne, notamment en lui envoyant sa fille et Steve Bannon.
Et Steve Bannon,
Steve
ouais.
Bannon qui émerge réellement à ce moment-là. Mercer, c'est la vraie alt-right américaine, c'est cette vraie extrême droite.
Alt-right, c'est-à-dire droite alternative.
La droite alternative qu'on pourrait comparer à l'extrême droite en France, qui voulait un président républicain dur. Bon. Et cet homme-là, il a fait fortune dans la data, dans l'ancêtre de la data. Il a immédiatement eu la prescience que la data serait extrêmement importante dans le monde futur. Il a beaucoup travaillé là-dessus, et puis ensuite, il a créé des organes comme Cambridge Analytica qui sont...
Alors, qu'est-ce que c'est Cambridge Analytica?
C'était l'outil d'analyse de la data qui a été mis au service de Donald Trump, mais pas que, hein, puisque Cambridge Analytica a été une société qui a travaillé pour beaucoup d'autres, et dont le principe était d'aller analyser dans les réseaux sociaux, sur l'internet en général, les petites failles, les points sur lesquels il allait falloir insister, et schématiquement de donner un ordre d'attaque pour qu'ensuite des trolls ou d'autres personnes puissent bien gouverner le navire
balancer des fake news. Vous savez ce qui se passait en Macédonie, Rudi Rechtal?
Macédoine,
Macédonie, c'est autre chose.
De mémoire, c'était l'endroit d'une ferme à trolls, hein, c'est ça?
Il y a une petite ville, toute petite ville, qui était minée par le chômage, et il se trouve qu'un certain nombre de jeunes gens avaient fait des études informatiques, et l'un d'entre eux s'est improvisé troll, en quelque sorte. Il a commencé à créer des sites qui appuyaient Donald Trump, qui laminaient généralement...
Hillary Clinton, c'est Hillary là où, Clinton, par exemple, voilà. Des fake news du style Hillary Clinton est un homme, voilà. Et Bill passe son temps à violer des jeunes filles de 14 ans.
Ou à faire assassiner des opposants politiques. Voilà. Enfin, on a à peu près tout entendu. Ils ont lancé ça sur la toile.
Mais
ils se sont rendus compte que ça a très bien marché. Ils l'ont monétisé très, très rapidement. Oui. Aujourd'hui, ces jeunes roulent en Mercedes. Hein. Ils attendent avec impatience les élections prochaines, puisqu'ils vont refaire la même chose. Et ces sites ont fait florès et ont beaucoup marché. À
Mais
tel
ça,
point,
c'est
d'ailleurs...
une petite entreprise, ça, non? Parce qu'il y a la grosse entreprise de Saint-Pétersbourg, qui est beaucoup plus importante, Rudi Rechtal.
Oui, ce qui est une entreprise alors dont on suppose très fortement qu'elle est liée au Kremlin. D'une manière ou d'une autre, et qui là industrialise en fait la désinformation. Alors cette entreprise, elle est notamment épinglée par un rapport public conjoint du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense français, qui montre qu'aujourd'hui l'information est militarisée. On a militarisé l'information, c'est-à-dire que c'est une arme, et parmi ces outils, si vous voulez, c'est une forme de division militaire de l'information qui prend la forme d'une sorte de start-up basée à Saint-Pétersbourg.
Emmanuel Ostian, dans votre livre, vous prenez une date, 2016, comme déclencheur d'une stratégie de désinformation.
C'est le moment où un mouvement qui était en fermentation depuis longtemps trouve son apothéose, en quelque sorte, puisque c'est le moment où on a l'élection de Donald Trump, qui était une surprise relative, en tout cas peut-être pour les élites de la côte est américaine, et puis ce Brexit en Grande-Bretagne, qui a aussi été une surprise pour les élites londoniennes. Je schématise un petit peu, mais c'est ça, avec en tout cas des mouvements derrière, de désinformation qui ont largement nourri une contestation.
Vous pensez que la désinformation, c'est ce terme qui remonte au siècle dernier, inventé par les Russes, le KGB à l'époque, vous pensez que la désinformation explique le succès électoral de Donald Trump? Parce qu'il y a aussi un mouvement populaire finalement de gens qui de la petite Amérique ou de l'Amérique blanche qui a voulu manifester son désarroi.
En tout cas, ce sont deux jambes qui vont à peu près dans la même direction. Les populismes ont l'autre jambe, qui est une forme de désinformation quasi généralisée.
Kevin Limonier.
Oui, moi je voudrais revenir sur la date que vous évoquez, qui est effectivement la date de l'explosion de quelque chose qui était en gestation depuis longtemps. On peut remonter en fait aux révolutions de couleur 2005-2006, au moment où vraiment la Russie est au plus bas de son image internationale, et c'est à ce moment-là qu'il y a une prise de conscience de la part des autorités russes de se dire, il faut leur faire la même chose que ce qu'ils sont en train de nous faire. C'est-à-dire que dans la conscience des élites russes au Kremlin, il y a cette idée que la révolution orange en Ukraine, etc., ont été fomentés par des organisations américaines, européennes, par de l'argent de l'OTAN, par de l'argent de la CIA, etc., etc. Que ce soit vrai ou non, c'est la représentation que ces acteurs ont. Et à partir de ce moment-là, ils se sont dit, il faut que nous leur fassions la même chose.
Qu'on leur rende coup pour coup.
Et la mise en place vraiment de toute la stratégie, c'est 2011-2012. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il y a eu les plus grandes manifestations jamais organisées en Russie depuis la chute de l'Union soviétique. Des centaines de milliers de personnes dans les rues de Moscou. Le pouvoir a eu peur à ce moment-là. Et c'est le retour au pouvoir de Vladimir Poutine. Les gens manifestaient contre le retour de Poutine au pouvoir. Et c'est à ce moment-là que Poutine va se poser en garant et en figure d'une sorte d'internationale conservatrice et que vont être pensés les outils médiatiques qui sont Russia Today, qui sont Sputnik. Russia Today existait avant, mais pas du tout de la même manière.
Radicalisé à ce
moment-là.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là vraiment que va se mettre en place toute cette arsenal informationnel qui va mettre à peu près voilà 3 ou 4 ans à arriver à maturité en Occident.
Quelles sont les dernières techniques aujourd'hui de désinformation? Tout le monde sourit, oui.
Il y en a pas mal. Il y a un personnage russe qui s'appelle Jenny Abrams, qui a été très connu aux États-Unis, qui a fait des tweets, des millions de tweets, comme une jeune femme américaine, mais qui évidemment était
très ordinaire,
la création des Russes, Kevin Limoney.
Oui, tout à fait. Ben, ça fait partie des méthodes qui étaient utilisées par l'Internet Research Agency, dont on parlait tout à l'heure, la fameuse usine à trolls de Saint-Pétersbourg, qui aux États-Unis, pour le coup, a produit énormément de faux comptes qui se faisaient passer pour de vraies personnes. Il y a aussi d'autres techniques alors qui ont été utilisées comme l'astroturfing par exemple hein,
qu'est-ce que c'est
quoi
alors l'astroturfing
les Chinois
les Chinois le font les Russes le font aussi beaucoup consiste à créer une page sur les réseaux sociaux à accumuler énormément de likes pour avoir beaucoup de suivi sur des sujets plus ou moins anodins et au bout d'un moment on va se mettre à diffuser du contenu politique ou aussi ce qu'ont beaucoup fait les Russes c'est de créer des pages sur des causes diamétralement opposées à celles des supporters de Donald Trump notamment la cause noire aux États-Unis les féministes etc., et créer des pages qui sont outrancières et qui, in fine, desservent.
Bien sûr, pour décrédibilisent
complètement les mouvements.
Et mieux encore, si je peux ajouter quelque chose, les trolls entre eux, on imagine des voisins de bureau, se battent à travers leurs réseaux sociaux parce que l'idée, c'est de créer un conflit. Donc vous allez avoir un troll russe, un faux conflit, mais qui va devenir vrai parce qu'il va entraîner un certain nombre de personnes. Vous allez avoir un troll russe qui est un Américain raciste, un troll russe qui sera un Américain non raciste. Les deux se rentrent dedans, ça crée une polarisation du débat, et les vrais Américains, eux, vont venir participer, et ils vont... Et du coup, il y a un débat autour de la question raciale, par exemple, parce qu'en 2016, ça a été
Elle a été mise au centre, alors qu'elle n'était pas au départ.
Ouais. Et non. Et du coup, ça crée un débat, et ce débat, généralement, est dans l'intérêt de personnages comme Donald Trump.
Comme Donald Trump, oui.
Ça crée de l'hystérisation, surtout. Ouais. C'est ce qui est le but recherché. Non, il y a une autre technique qu'on a vue, d'ailleurs, à l'œuvre, aussi bien sur ce qui peut se passer en Syrie, en Ukraine, sur l'assassinat de Boris Nemtsov, sur la tentative d'assassinat de Sergei Skripal et sa fille, sur le crash du MH17, vous savez, cet avion de la Malaysian Airlines qui s'est crashé, qui a été abattu en fait par des forces pro-russes au-dessus du Donbass, au-dessus de l'Ukraine, c'est la technique du foisonnement. C'est-à-dire que les médias russes, en particulier, ou pro-Kremlin en tout cas, vont explorer un nombre incalculable d'hypothèses pour noyer les hypothèses qui seraient les plus fâcheuses pour le Kremlin, c'est-à-dire dans le cas de l'assassinat de Boris Nemtsov, que finalement ça profite peut-être à Poutine, ces choses-là, et pour noyer comme ça, comme des contre-mesures comme ça qui seraient larguées d'un bombardier Tupolev, et pour noyer le débat et créer un écran de fumée.
C'est un effet répulsif, et c'est
assez efficace.
Et pour en savoir encore plus sur les fake news et le complotisme, je renvoie aux ouvrages de nos invités. L'opium des imbéciles, la critique du complotisme est un sport de combat, c'est aux éditions Grasset, et c'est signé Rudi Rechtstadt. Désinformation, enquête sur les fake news qui gouvernent le monde, aux éditions Plomb, signé Emmanuel Ostian, et puis aussi C'est un complot chez la thèse de Christophe Bourseiller, et oui. Mais tout de suite, un gros plan sur un maître de la manipulation, l'américain Steve Bannon, au centre du documentaire d'Alison Kleman, avec qui je m'étais entretenu en septembre dernier, lors de son passage à Paris. Steve Bannon, le grand manipulateur, le film, extrait.
Même si j'ai 64 ans, je sens que le temps presse et que je dois avancer. Il y a des gens qui changent les choses. Sans moi, Trump n'aurait pas gagné, ça ne fait aucun doute. Ni pour moi, ni pour lui. Donald Trump est un personnage historique et un président transformationnel. Il fera encore partie de votre vie personnelle dans 30 ans.
Donc vous sacrifiez votre vie personnelle pour cette cause ?
Non, mais c'est quoi une vie personnelle? Vous savez, toute ma vie, j'ai été un vrai bourreau de travail. J'ai étudié l'histoire, j'ai suivi la politique. J'avais aussi des hobbies comme le golf. Mais quand on vieillit, cette vie est épanouissante. Je suis trop occupé pour penser à autre chose. Et franchement, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre.
Gouverné par les fake news, le mensonge, organiser la désinformation, occuper les médias, c'est la stratégie de Steve Bannon, filmé pendant un an par Alison Kleman. Un an avec Steve Bannon, ça commence en 2017, il a 64 ans, il a déjà démissionné de la Maison Blanche après les événements de Charlottesville, vous vous souvenez, c'est le défilé des néo-nazis et suprématistes blancs. À cette époque, il était le chef de la stratégie de Donald Trump. Et dans le film d'Alison Kleman, eh bien, on le voit mettre en place son mouvement qui a pour but de fédérer les politiques de droite dur et d'extrême droite sur le plan international avec un focus en Europe. Le film s'ouvre sur Bannon qui parle de son voyage à Auschwitz et il donne son analyse sur l'industrialisation à l'œuvre dans les camps de concentration due au savoir-faire de Mercedes, d'Hugo Boss et de Krupp. Le film s'ouvre là-dessus et ce n'est pas innocent parce que Bannon est suspecté de propos antisémites masqués. Le film va revenir sur cette dimension. C'est un documentaire sans interview. Sans entretien, Bannon est filmé en action, en réunion, dans ses déplacements. Et j'ai demandé à Alison Kleman les raisons de ce choix. Ne pas interroger Steve Bannon, est-ce que c'est une stratégie payante?
The very question of this film is how do you make a movie?
Je dirais que la question principale avec ce film, c'était comment on montre la figure de Steve Bannon, quelqu'un pour qui la vérité n'a pas de valeur, quelqu'un qui manipule les médias, qui dit que toute presse se vaut, et quelqu'un qui essaye d'étendre son emprise sur le monde. Et c'est précisément pour cette raison-là que je voulais faire un film de la manière que j'ai utilisé, c'est-à-dire le cinéma vérité. Je pense que s'asseoir face à Bannon pour une interview est quelque chose qui est perdu d'avance d'une certaine manière. Hein. C'est une proposition voie l'échec.
Il y a une séquence à Venise, c'est un entretien avec Paul Lewis du Guardian. Et Bannon lui demande, avant l'entretien, s'il a vu son film, parce que Bannon avait fait un film sur Trump qui s'appelle Trump War. Le journaliste avoue que non. Alors déjà, moi je me dis, c'est pas possible, le journaliste n'a pas fait son boulot. Et Bannon lui dit, très malicieusement, eh bien, je vous l'envoie ce soir, c'est de la propagande, c'est un film de propagande, et pour moi, la propagande a du bon. Le journaliste ne dit rien, on voit qu'il est un peu interloqué. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand Bannon lui-même déclare que son film, c'est de la propagande?
I mean, the truth is, Bannon's films are propaganda.
La vérité, c'est que les films de Bannon sont de la propagande, mais il parle de propagande à ce journaliste du Guardian pour essayer de le provoquer, hein, parce que effectivement, ces films sont à 100% de la propagande. Ce ne sont pas des films qui recherchent la vérité. Il est là pour convaincre les gens. La vérité lui importe un peu. Si on le traite de raciste ou de propagandiste, il s'en fiche. Et je crois que l'une des choses qui est le véritable défi pour faire un film avec Bannon, c'est essayer de trouver quelque chose de neuf qu'on n'ait pas vu d'une certaine manière dans les coulisses tous les jours. Hein.
J'ai pu lire dans le dossier de presse qu'avec ce film, vous voulez le démystifier. C'est un mot assez fort. Démystifier, ça signifie quoi pour vous?
So I think, there's a word that's more typically used in this context.
Alors, je crois qu'il y a un mot en fait qui est plus typiquement utilisé. Ça veut dire humaniser cet homme. Et je crois que c'est un terme en fait qui, d'une certaine manière, a en sous-texte l'idée de adoucir quelqu'un, de le rendre plus ordinaire. Et évidemment, je veux bien sûr dire qu'on est tous humains. Hein? Goebbels était humain, George Bush était humain. Et voilà. Et il n'y a pas besoin d'humaniser les gens. Tout le monde est humain. Hein? Mais j'aime le mot démystifier parce que quand j'ai commencé ce film, l'un des points forts de Bannon, c'était cette image publique pratiquement mythique qui avait été principalement inventé par la presse, et donc je voulais pour le pire ou pour le meilleur, parce que je ne savais pas ce que j'allais découvrir, mais je voulais montrer ce qui était derrière, en fait, cet homme qui était présenté comme un cerveau, comme quelqu'un qui tirait les ficelles. C'était mon boulot à moi de trouver ce qu'il y avait derrière.
Alors même qu'en fait, on se rend compte qu'il n'a qu'une idée, c'est-à-dire le nationalisme économique. C'est le seul argument qu'il profère à longueur de réunion, à longueur d'interview. Alors, vous le filmez en campagne, notamment en Europe. Ça, c'est très intéressant. Quand il rencontre des politiciens d'extrême droite, dans sa chambre à l'hôtel Bristol à Paris ou à Londres, notamment Marine Le Pen, Matteo Salvini, Nigel Farage, pour le mouvement qu'il a créé, le mouvement en vue de gagner justement les européennes de 2019. Ce sont des dîners, des réunions. Et parfois, vous êtes quand même prié de passer derrière la porte. À quel moment précisément ?
Alors,
l'exemple de sa réunion avec Louis Alliot et Jean Rivière du Rassemblement national, c'était le moment où ils avaient des problèmes au niveau européen et ils essayaient de demander à Bannon comment ils allaient s'en sortir. Je ne sais pas si Bannon allait les mettre en relation avec de nouveaux donateurs, si il a lui-même donné de l'argent ou s'il leur a donné des conseils pour gérer leurs finances. Mais il y a des gens aussi qui ne voulaient pas être filmés. Et c'est intéressant, lorsque les gens acceptaient d'être filmés, ça vous dit déjà quelque chose, puisque ça vous montre qu'ils n'ont pas peur d'être associés à Bannon.
Alors un an avec Bannon, qu'est-ce que vous en avez retiré ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Dans cette année passée, dans des réunions avec des néo-nazis, des suprématistes blancs, avec le Rassemblement national en France, avec Matteo Salvini.
Je dirais que à chaque fois en fait que je revois le film, mon visage prend exactement l'expression qu'il avait lorsque j'ai filmé ces images, et je crois que c'est quelque chose de particulièrement terrifiant. Je crois qu'il y a des moments dans le film qui sont assez comiques, mais un peu comme une comédie noire. Évidemment, il y a certaines de ces figures sont pitoyables. Il y a beaucoup d'incompétence. Il y a une avidité non dissimulée pour le pouvoir. Et effectivement, j'étais là, prise dans ce cercle-là. Mais finalement, ce n'est pas drôle parce qu'il s'agit de nos vies, il s'agit de notre futur politique dans beaucoup de pays. Et lorsqu'on parle de cette union, en fait, de toutes ces droites dans le monde entier, et lorsqu'on voit, en fait, leur langue qui est similaire, et je crois que c'est pour ça que c'est un sujet particulièrement brûlant.
Et vous avez le sentiment que les camps adverses sont armés contre ce mouvement ?
Non, je ne crois pas que les concurrents soient particulièrement bien préparés. J'espère vraiment, en fait, que ce film permette d'avoir un petit regard, en fait, sur leur manuel. Je crois que c'est une opportunité qui vous est donnée de voir. Je crois qu'on ne peut pas fermer les yeux sur leur lutte qu'ils ne cesseront pas. Et je ne crois pas qu'on pourra se battre contre ces gens-là en fermant les yeux, ni en n'imaginant pas une meilleure stratégie.
And the real thing that I also hope the movie shows is that
si je peux dire encore ça, la chose que je voudrais vraiment que le film montre, c'est que Bannon et des gens comme lui sont peut-être très doués pour parler des problèmes, mais ils ont vraiment aucune solution à proposer. Et ça serait vraiment les mettre au... ça aurait été vraiment un véritable défi si moi, je les avais entendus dans les coulisses et à huis clos, parlaient en fait des solutions. Mais bon, ils ne parlent en fait toujours que de la même chose que ce qu'ils disent en public. Ils n'ont aucune solution. Et c'est peut-être pour ça qu'il me reste un petit peu d'optimisme, c'est-à-dire que si leurs opposants essaient de se battre pour ce que veulent les gens, c'est-à-dire le travail et une société un peu plus égalitaire, je pense qu'ils pourraient gagner.
C'était Alison Kleyman et je signale que son film Steve Bannon, Le Grand Manipulateur, sortira en DVD le 4 février prochain. Earthquake par le touche-à-tout Tyler, the Creator, rappeur, acteur, graphiste, scénariste, designer, réalisateur, il fait tout.
En mai prochain, on assistera à la résurrection de l'Europe des peuples. Et je suis très content de prendre part à ce changement.
Le nouveau rendez-vous.
La poussée de nos alliés en Europe et l'émergence de nouvelles forces politiques sur tout le continent ouvrent la voie à la constitution d'un groupe puissant au sein du Parlement européen.
Laurent Goumard.
Notre patrie, la Hongrie, prend le chemin qu'elle s'est elle-même choisi.
Le record de Donald Trump est une pierre dans l'émergence d'un nouveau monde.
Sur France Inter.
Matteo Salvini, Jordan Bardella, Viktor Orban, Marine Le Pen, un casting de choc pour parler populisme à l'échelle internationale. C'est quand même la nouveauté de la vie politique, l'accès au pouvoir des populistes de droite comme de gauche. États-Unis, Brésil, Pakistan, Inde, Philippines, en passant par l'Europe, les populistes prennent le pouvoir et la parole sur fond de crises économiques, crises migratoires, chocs culturels et de déni démocratique. C'est le sujet qui nous animait déjà le 2 septembre dernier. Il n'est pas vain d'y revenir aujourd'hui avec Anne Nivet qui était notre invitée, elle est essayiste et grand reporter et elle signait Un continent derrière Poutine aux éditions du Seuil. Il y avait aussi Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, il signait Recomposition, le nouveau monde populiste. aux éditions du Cerf. Olivier Guez était avec nous, historien, romancier, prix Renaudot pour La disparition de Joseph Mengele. Il publiait alors Le siècle des dictateurs aux éditions Perrin. Il y avait aussi Dominique Régnier, politologue, animateur de la Fondation pour l'initiative politique et l'auteur de Démocratie sous tension, une enquête planétaire aux éditions Fondapol. Mais avant de les entendre, place à la parole de notre tribun à nous, Christophe Bourseiller, c'est l'édito du NRV.
Vous savez, Laurent, c'est une grosse bébête qui monte, qui monte, qui monte, mais alors, inexorablement, puisqu'il n'est pas un jour sans qu'on nous parle de telle ou telle rodomontade, de telle ou telle saillie, voire de telle ou telle victoire. Hier dimanche, le grand vainqueur des élections régionales en Allemagne, c'était quand même le parti AfD, Alternative pour l'Allemagne, un mouvement souverainiste et anti-immigration. Alors, on peut se lamenter, répéter que nous vivons une réplique des années 1930, crier au fascisme qui ne passera pas mais qui passe quand même, ou bien s'interroger. Alors là, c'est notre point fort, Laurent.
On va s'interroger.
Nous nous interrogeons. Alors, dans votre essai Recomposition, Alexandre Devecchio, vous citez le politologue bulgare Ivan Krastev, et je le cite à mon tour, « Nous assistons à une insurrection d'ampleur mondiale contre l'ordre libéral et progressiste post-1989 qui se caractérisait par l'ouverture générale des frontières aux hommes, aux capitaux, aux biens et aux idées. Fermer les frontières, rejeter l'autre, ce n'est pas très cool. Après la chute du mur, on en bâtit un autre. Une chose est sûre, le phénomène populiste dans sa vocation planétaire est une réaction à la mondialisation en raison des dégâts humains causés justement par cette mondialisation. » Alexandre Devecchio, l'AfD donc connaît en Allemagne une forte montée en puissance. Ça vous inquiète ou ça vous enthousiasme ?
Je ne sais pas si l'AfD en particulier, le populisme allemand, est je trouve toujours plus inquiétant que les autres populistes, eut égard à l'histoire de l'Allemagne. Mais la montée du populisme, le côté où on joue sur les peurs, je trouve, n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. C'est vrai, il y a quelque chose au moins qui me plaît dans cette montée-là, c'est le retour finalement des peuples. Je pense qu'on a une démocratie qui est quand même de plus en plus sclérosée, où il y a une partie des gens qui ne se sentent plus maîtres de leur destin, puisque les politiques semblent parfois avoir perdu la main face au marché, face aux organisations supranationales, face aux associations qui prétendent représenter des minorités et souvent ne représentent qu'elles-mêmes. Face à tout ça, on a aujourd'hui un retour des majorités silencieuses. Moi, je crois que c'est ce qui est le plus intéressant au-delà des personnages fantasmes comme Salvini, comme Trump.
Vous dites dans votre livre qu'on n'est pas dans les années 30.
Auxquels on peut s'intéresser. Il faut surtout s'intéresser aux gens. Pourquoi aujourd'hui, il y a autant de gens qui se reconnaissent dans ces discours-là? C'est, à mon avis, la grande question
justement,
de notre temps.
Alors, quelles sont les causes? Alors, il y en a plusieurs. On sait toujours la crise économique, le choc culturel, l'immigration. La crise économique, c'est quelque chose où vous n'êtes pas d'accord avec cette interprétation.
Non, c'est
Dominique Régnier.
Il n'y a pas de causalité économiste dans la poussée des populismes que l'on observe d'ailleurs depuis la fin des années 80. C'est un cycle qui est assez long, hein, qui n'est pas terminé, mais qui a commencé. Et on a, bien sûr, je vous en ferai grâce, mais on a des corrélations statistiques qui sont très claires à ce sujet, que ce soit d'ailleurs pour l'Europe ou pour les États-Unis, puisque le cas Trump a été étudié. C'est complètement détaché. Par contre, c'est très corrélé à ce que moi j'appelle la crise du patrimoine immatériel, c'est-à-dire une déstabilisation existentielle, le sentiment que le monde à soi s'effondre, que les repères disparaissent. Et ça, c'est causé par tout un tas de facteurs, parmi lesquels l'immigration, parmi lesquels les chocs interculturels, notamment liés à l'immigration, mais aussi à des formes de globalisation, globalisation culturelle, communicationnelle. C'est un événement considérable qui arrive au monde, évidemment, hein, et en particulier à l'Europe, parce que l'Europe a le sentiment d'être mise à l'écart du monde, d'en être en quelque sorte expulsée. Donc c'est une forme de tragédie pour beaucoup d'Européens. Mais ce sont là les déterminants les plus importants. Je veux juste ajouter ceci, que par exemple, le seul fait de regarder le chômage peut le faire comprendre sans avoir besoin de corrélation.
Par exemple, en Suède, c'est vrai que le chômage n'est pas particulièrement...
L'Autriche,
la Suède...
L'Allemagne
aussi.
L'Angleterre.
Voilà, la Suisse, qui a sa forme de populisme, etc. Donc, il n'y a pas de corrélation avec cela. Et c'est d'ailleurs l'économisme, qui est une espèce d'héritage d'une matrice marxisante, nous laisserait penser qu'en finir avec le chômage, c'est revenir à des démocraties tempérées. Pas du tout, pas du tout. Ça ne se passera pas comme ça.
Oui, ça, c'est vraiment
l'idée reçue qu'on peut avoir sur le populisme.
On a tendance à coller un schéma des années 30 sur l'époque actuelle, Olivier Guez. Est-ce qu'on peut faire une sorte d'identification entre le populisme actuel et l'extrême droite, comme font beaucoup de journalistes d'ailleurs?
Non, moi j'aime pas trop cette comparaison avec les années 30. Je pense qu'elle fonctionne assez mal. La seule chose qui puisse vaguement fonctionner, si on veut vraiment faire une comparaison, c'est ce qu'on pourrait appeler, en tout cas ce qu'Anna Arendt a appelé, une crise de modernité. C'est-à-dire que tous nos repères ont incroyablement évolué, ont été perturbés ces 30-40 dernières années. Effectivement, le point de départ, c'est la fin des années 70, c'est le début de la mondialisation. Ce changement global crée une crise de modernité avec une crise d'angoisse, mais finalement qui est assez normale,
c'est
assez
légitime. Le populisme, c'est une crise d'angoisse.
C'est une crise, bien évidemment que c'est une crise d'angoisse.
Alors, je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez, Christophe Bourseiller, parce qu'on entend souvent dans les médias, extrême droite, populisme. Est-ce que pour vous, Anne Niva, c'est l'équivalence ?
Médiatiquement parlant ou politiquement parlant, tout le monde a toujours intérêt à opposer populiste et progressiste. Mais en fait, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, ce qui m'a le plus intéressé d'observer, en tout cas dans mes reportages, c'est le sentiment profond de déclassement qui est celui de nombreuses personnes, oui, d'abandon. Et en fait, c'est plutôt le cri « faites attention à nous ». Et pour moi, l'important, c'est d'essayer de savoir si les uns et les autres auront des réponses. Est-ce que les populistes ont des vraies propositions pour le bien-être du peuple ? Et est-ce que, de l'autre côté, les réponses proposées par les progressistes sont des réponses efficaces ?
Juste une question par rapport à quelque chose qui se redéfinit avec le populisme, notamment les populistes, on va dire, du côté de l'Amérique latine ou du côté de l'Inde ou de l'autre côté, pas les populistes occidentaux, qui viennent remettre en cause justement l'hégémonie américaine, qui viennent remettre en cause l'hégémonie européenne, et on a l'impression que se redessine une sorte d'avènement bipolaire du côté de la Russie ou du côté de la Chine, qui est une sorte d'autre partage du monde que ce qu'on avait auparavant. Dominique Crénier.
Oui, ben, il se met en place un nouveau banquet planétaire dont on peut rêver aussi de chasser les Européens qu'il avait jusqu'ici occupé
dominé
tout seul. Hein.
Le club des BRICS.
C'est quelque chose qui est extraordinairement excitant d'ailleurs pour une bonne partie de la planète. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas comparable avec les années 30. Hein. Les années 30, c'est le malheur pour tout le monde. Là, pour la plupart des humains, il y a de grandes perspectives qui jamais n'avaient été envisagées. Donc ça crée beaucoup d'énergie dans des pays où vous avez comme l'Inde 700 millions de personnes qui ont moins de 17 ans. Vous imaginez l'énergie d'un monde qui devient prometteur.
Donc, l'Inde qui aujourd'hui est sous la coupe d'un régime.
Et le Pakistan.
Donc c'est, mais il est certain que, en tout cas, ça alimente ce que vous dites là, cette espèce de tentative, je crois que ça va réussir, hein, de redistribution au détriment des Occidentaux en général, de l'Europe en particulier, alimente les angoisses des Européens, l'inquiétude sur le déclassement collectif, même pas simplement.
Oui, pas simplement, ouais.
Et l'interrogation qui a été posée à l'instant par Anne Niva, de quoi êtes-vous capable, vous, pour qui nous votons? Oui. Et c'est une crise non pas de la volonté,
de légitimité,
mais de la capacité. La volonté, on la connaît, tout le monde veut des solutions à nos problèmes collectifs, mais on n'arrive pas.
Avec un peut-être quelque chose en plus qui est très intéressant, qui est propre à l'époque présente, c'est comme si c'était opposer l'argument d'un réalisme, d'un pragmatisme au moralisme. C'est-à-dire que aussi bien Salvini que Trump ou d'autres, par exemple, disent au nom des bons sentiments, vous faites entrer les migrants et les migrants nous menacent, etc.
Et par exemple, Duterte dit, oubliez les droits de l'homme, si je suis élu, ça va saigner. Donc il y a bien une sorte de...
C'est un peu du Poutine, ça.
Oui, Alexandre, après moi, je mélangerai pas les démocratures, voire les dictatures, avec les populismes occidentaux. Je crois que ça, c'est un peu une manière d'amalgame qui facilite le débat.
Le Brésil n'est pas une dictature.
Le Brésil, le déjà, on est entre les deux, mais on est dans une société qui est fondamentalement inégalitaire depuis toujours, le Brésil. En Occident, enfin, en Europe et en Amérique, je crois aussi que la montée du populisme provient du déclassement des classes moyennes et populaires qui avaient connu pendant les 30 Glorieuses une forme d'ascension. On avait des sociétés égalitaires et je crois que ces sociétés-là le sont de moins en moins. Alors, je ne suis pas du tout économiciste. Au contraire, je pense que la question identitaire est très importante. Mais ce sentiment de perte du niveau de vie, notamment des classes populaires, de leurs valeurs, mais aussi de manière économique et sociale.
Oui, mais ça, c'est une rupture occidentale
qui fonctionne. Une réalité. Donc, c'est une rupture occidentale qui, à mon avis, ne fonctionne pas pour les cas du théâtre ou Poutine. C'est d'ailleurs une vision assez libérale et économiciste de dire que c'est la même chose, parce que c'est oublier la culture des pays, et la culture russe, ça n'a rien à voir avec la culture européenne. C'est un pays qui n'a jamais connu vraiment la démocratie, à part sur Helsinki, et ça a été plutôt une catastrophe.
Olivier Guez ?
Effectivement, je suis d'accord. Il ne faut pas mélanger les populismes européens ou nord-américains, où on part d'un sentiment de déclassement, à un populisme qui est effectivement beaucoup plus revanchard, mais au niveau vraiment supra-étatique, enfin au niveau étatique, où là il y a cette envie de finalement de reprendre en main le cours de son destin qui a été interrompu pendant des dizaines d'années ou des centaines d'années par le colonialisme.
Le point commun,
c'est de l'Inde et de Pakistan.
C'est des choses très différentes.
Le point commun, c'est que ce sont des souverainismes anti-immigration, certains étant libéraux, d'autres non. Comment on peut définir techniquement les populismes, Dominique Régnier?
Le premier critère de définition qu'il faut retenir, je crois, c'est l'appel au peuple. Et c'est là, tout de suite, qu'on a la difficulté et l'ambiguïté, parce que l'appel au peuple, c'est aussi le régime démocratique. Ça me paraît, moi, être vraiment l'élément constitutif. Après, on a des éléments qui deviennent beaucoup plus caractéristiques, qui est le détachement du fait démocratique, c'est-à-dire l'expression de la souveraineté populaire à travers les procédures électorales, de la règle de droit et le respect de la règle de droit qui s'impose même au peuple dans sa volonté. Et là, on a la différence entre le populisme et son souverainisme démocratique, et de l'autre côté, le libéralisme démocratique qui dit le peuple peut parler, mais il a aussi des obligations, et il ne peut pas décider n'importe quoi au motif qu'il est le peuple.
Je voudrais dire un mot sur la Russie.
Anne Niva.
Simplement aussi, souvent on utilise le mot populisme pour ne pas dire un autre mot, qui est le mot nationalisme. Et pour ce qui est de la Russie, pour ce qui est même du Brexit, de l'Angleterre d'aujourd'hui, pour ce qui est de l'Italie d'aujourd'hui avec Salvini, pour ce qui est de l'Amérique d'aujourd'hui avec Trump, on est effectivement face à un homme, un chef d'État et son peuple qui sont extrêmement nationalistes.
Dans votre livre Recomposition, Alexandre Devecchio, vous dites que finalement Emmanuel Macron s'est présenté comme le chantre du monde nouveau, et selon vous, le vrai monde nouveau, c'est le monde populiste. Et vous dites quelque chose qui est assez troublant et même un peu provocateur, vous dites cet âge dans lequel on est, c'est un âge de reconstruction.
Je le mets, pour être tout à fait honnête, il y a un point d'interrogation quand même. Est-ce que c'est pas un âge de reconstruction? Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il a un côté assez has-been, le président Macron, assez années 80. Il croit à la mondialisation heureuse et donc il aurait été très bien au moment de la chute du mur de Berlin, de la fin de l'histoire de Fukuyama. On a une tendance aussi à croire que le multiculturalisme, ça va être le vivre ensemble universel et ça va pacifier les sociétés. Et on voit qu'il est pris un peu à contre-pied. Il défend également à toute force une Union européenne fondée sur le dépassement des nations, alors qu'on voit bien qu'il est plus majoritaire en Europe. Même en Allemagne, ils sont finalement plutôt souverainistes. Donc, je crois qu'au moment où ce cycle, justement, de la globalisation heureuse touche à sa fin et qu'on a des présidents qui sont pour la souveraineté un peu partout ailleurs, eh bien, la France est prise à contre-pied. Donc oui, à mon avis, Emmanuel Macron, c'est peut-être le dernier samouraï du vieux monde plutôt que le héros du nouveau
monde. Donc, ça voudrait dire que le nouveau monde, ça serait de restaurer la souveraineté du démos, parce que c'est ça, les populistes de droite comme de gauche.
Oui, je crois qu'il y a un retour des peuples comme acteurs démocratiques. Tout à l'heure, on parlait du fait que le droit, que les populistes n'étaient peut-être pas tout à fait démocrates parce qu'ils ne respectaient pas les règles de l'état de droit. Je crois que c'est faux, que d'abord les libertés publiques sont respectées dans les populismes occidentaux et que surtout, depuis des années, le droit, oui, la technocratie, les institutions supranationales ont fait justement que le démos se sentait de plus en plus exclu. Donc je crois qu'on assiste à une forme de rééquilibrage pour retrouver la puissance politique, la puissance publique. Donc je ne sais pas si les populistes actuellement au pouvoir ont toutes les bonnes solutions, mais en tout cas, ils ont mis le doigt sur cette volonté des peuples de redevenir acteurs de l'histoire.
Olivier Vicaise, moi, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le siècle des dictateurs ». Vous avez étudié de nombreux dictateurs. Vous êtes le maître d'œuvre de ce livre qui a été signé par de nombreuses personnes comme Stéphane Courtois et beaucoup d'autres. Or, aujourd'hui, on voit des pays populistes qui ont l'air d'aller progressivement vers la dictature. Je pense par exemple à Orban, je pense encore à Erdogan en Turquie. Est-ce que ça vous renvoie à quelque chose du siècle dernier, ou est-ce que là, on est vraiment face à quelque chose de totalement nouveau, à savoir ce qu'on appelle, de façon un peu bizarre, des démocratures
démocraties illibérales.
Je pense que c'est un phénomène nouveau. Pour la bonne et simple raison que si vous regardez, c'est ce qu'on montre dans le bouquin, tous ensemble, les dictatures du XXe siècle, et le XXe siècle est vraiment le siècle des dictateurs, naissent systématiquement d'un immense chaos, d'une immense crise. une guerre civile, une guerre mondiale, la décolonisation, l'effondrement des empires. On n'en est pas du tout là aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve, donc, ce que je disais précédemment, c'est-à-dire une crise de modernité. Et par rapport à cette crise de modernité, des hommes apparaissent, et ça, effectivement, c'est un classique, avec des solutions relativement simples. C'est en fait, vous avez trois piliers. Vous avez l'identité, vous avez la sécurité, et vous avez la consommation. C'est-à-dire que le dictateur, ou en tout cas l'illibéral aujourd'hui, pour être élu et se maintenir au pouvoir, va offrir à ses concitoyens ces trois piliers qui sont fondamentaux. Et ça marche pour Trump, ça marche pour Bolsonaro, ça marche pour Poutine, ça marche pour les Chinois, pour Orban, etc. etc. C'est-à-dire vous pouvez démultiplier cet exemple à l'infini. Et donc je trouve encore une fois que la comparaison avec notamment les années 30 n'a absolument rien à voir.
Alors il y a une ironie peut-être aujourd'hui, on sait bien, c'est ce que vous dites d'ailleurs Alexandre Devecchio dans votre livre, vous dites les méthodes du populisme, Macron ce sont les méthodes du populisme au service d'une idéologie qui n'est pas populiste, c'est-à-dire que Macron ce qu'il caractérise c'est le fait qu'il a utilisé selon vous le style populiste pour le mettre au service
qu'il n'est pas populiste, mais qu'il a une rhétorique populiste.
Ça veut dire qu'il n'est pas has-been alors.
C'est vrai qu'il n'est pas tout à fait c'est une formule d'Alain Minc hein, qui dit d'ailleurs à Macron c'est le populisme des élites, mais c'est vrai qu'il a les corps intermédiaires, c'est pas son truc. Il a utilisé le premier les réseaux sociaux, c'est le premier à avoir parlé de démocratie.
Mais est-ce qu'il faut parler de populisme par le populisme comme l'avait fait François Mitterrand avec Bernard Tapie?
Je crois que ce sera le débat
c'est le débat de toute
aujourd'hui on est dans une ère populiste, les réseaux sociaux sont populistes, les chaînes d'infos sont populistes, tout est populiste, la façon dont les gens s'expriment.
Mais je dirais populiste, nationaliste, voire individualiste. C'est le règne de l'individu,
Donc c'est combattre le populisme par le populisme.
Et j'ai raison.
C'est sa technique.
Dominique Régnier.
Non, simplement, moi, j'attire l'attention sur le fait que la probable première puissance du monde au XXIe siècle sera la Chine. Un régime antidémocratique qui ne laisse aucune liberté à ses sujets et qui a mis en place un totalitarisme high-tech que dans l'histoire, nous n'avions jamais vu.
Et l'on termine donc sur la Chine, dans cette émission consacrée au populisme. Nos invités, c'était Anne Niva, elle signait Un continent derrière Poutine au seuil, Alexandre Devecchio, Le nouveau monde populiste, paru aux éditions du Cerf, Olivier Guèze, Le siècle des dictateurs, ça venait de sortir chez Perrin, Dominique Régnier, Démocratie sous tension, une enquête planétaire, c'était aux éditions Fondapol. Mais tout de suite, on part en live, la musique, c'est Marion Guilbeault.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Alors Marion, pour ce 25 décembre, notre cadeau de Noël.
Super cadeau avec Temples, quatre Anglais dans le vent des 60s. Rappelez-vous Laurent, ils étaient là avec leurs cheveux longs, leurs costumes stylés, ils étaient glam, ils étaient superbes. Temples, c'est bien simple, tout le monde les adore, que ce soit Johnny Marr, l'ancien guitariste des Smiths, ou Noel Gallagher d'Oasis. Ils incarnent le pendant britannique du revival psychédélique qui secoue toute la planète pop, guitare fuzz, voix et synthé qui partent dans les éthers et un talent fou quand il s'agit d'écrire des hymnes comme celui-là.
Destruction, reborn.
gardien du temple, ni roi du pastiche, juste Temples avec Hot Motion. C'est issu de l'album du même nom et ils seront en concert à Paris au Cabaret Sauvage. Ce sera le 10 mars.
Ça, c'était pour finir le NRV première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV La Suite France Inter Plus. Mais demain...
Cheval, pas blanc, oui.
Programmation BD avec les stars des cadeaux de Noël, Black et Mortimer et Astérix, le succès jamais démenti de la ligne franco-belge. Le NRV, c'est Marion Lelay et Juliette Medevielle à la réalisation. Préparation, programmation, Christophe Bourseiller, Virginie Rosic et Clémence Diligent.
Rendez-vous.